Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est un des plus grands génies de la musique que Franck Ferrand a choisi de nous présenter aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. J'ai cru un instant que vous parliez de notre invité en parlant de ce très grand génie, Thierry Geffrotin, le monsieur musique d'Europe 1. Je trouvais ça gentil, mais peut-être un peu excessif. Si c'est Jean-Sébastien Bach que vous vouliez décrire ainsi, alors là oui, je vous confirme, c'est un inépuisable génie.
Tout à l'heure à la fin de l'émission, vous nous parlerez de l'origine des hymnes nationaux.
Et notamment de celle de l'hymne allemand, qui de ce côté du Rhin a laissé de mauvais souvenirs, disons-le. C'est une question d'Élodie et j'y répondrai avec plaisir. Pour le moment, place à la musique avec un grand M. Le maestro Bach nous attend.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Mais d'où viennent ces notes célestes? Qui s'amuse ainsi avec l'orgue? Qui a bien pu composer cette musique? Ces questions, à coup sûr, une foule de fidèles, de visiteurs, de mélomanes les auront posées et reposées pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Toute personne munie d'une paire d'oreilles et qui se sera trouvée par hasard ou par choix dans la chapelle du duc de Saxe à Weimar vers 1703 ou dans l'église de Saint-Boniface d'Arnstadt ou à partir de 1707 à Mühlhausen ou encore en 1717 dans la chapelle de la cour de Költen chez le prince Léopold d'Anhalt Költen. On peut dire que tous se seront posé cette question. Et puis bien sûr, à partir de 1720, les auditeurs qui auront eu la chance de se trouver à Leipzig, notamment dans la chapelle royale de la cour de Saxe. La réponse qu'on leur a donnée était toujours la même, mais enfin c'est Monsieur Bach, Herr Kapellmeister Johann Sebastian Bach, le maître, l'organiste, le compositeur, le musicien béni de Dieu. C'est que Jean-Sébastien Bach est alors difficile à classer. Il joue d'abord de bien des instruments, de l'orgue évidemment, mais aussi du clavecin, du violon, de l'alto, de la viole de gambe, et il écrit de même pour toute formation, pour toutes occasions. Ses plus grandes œuvres instrumentales demeurent consacrées à la flûte, au violon, au clavecin et au violoncelle. C'est au début des années 1720 que Monsieur Bach a fait le choix de se fixer à Leipzig. On est alors au lendemain de la mort de sa femme, de sa première femme, Maria Barbara. C'était une soprano divine et dont il avait tout de suite repéré le timbre. Je dirais même qu'il l'avait adoré, ce timbre. Est-ce qu'il était tombé amoureux plutôt de la voix ou plutôt de la femme? J'avoue que je réserve presque ma réponse. Un jour, ce sujet sédentaire de Leipzig se verra décerner le titre extrêmement envié de compositeur de la chapelle royale de la cour de Saxe. On sera le 19 novembre 1736. Un poste d'autant plus crucial que cette cour de Leipzig, tellement brillante, devient d'année en année un important centre musical grâce au souverain de Prusse. C'est assez étrange, mais Frédéric Guillaume Ier de Prusse, qui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas un mélomane, passe son temps à renvoyer à tour de bras des artistes qui donc quittent la cour de Prusse et vont grossir la main-d'œuvre du bon prince Léopold. En 1740, le trône de Prusse échoit à un nouveau souverain, un personnage appelé à laisser un nom dans la grande histoire, c'est Frédéric II bien sûr, celui qu'on appelle Frédéric le Grand. Monsieur Bach est déjà âgé à l'époque, en tout cas selon les critères de son temps, il a 55 ans, il est bien fatigué. Néanmoins, il va bientôt faire lui-même le voyage jusqu'à la cour de Prusse, jusqu'à Potsdam près de Berlin, jusqu'au château de Sanssouci. Il faut vous dire que l'on est en 1747, Jean-Sébastien Bach à l'époque est malade, il va avoir d'ailleurs quelques difficultés à parcourir les quelques 150 kilomètres qui séparent Leipzig de Potsdam. Quel est le but de ce voyage? Oh, vous vous dites, il va chercher fortune, c'est l'ambition, c'est la curiosité professionnelle, c'est tout ça. Eh bien non, pas du tout, vous n'y êtes pas. En vérité, Bach n'a pas vu son fils, Carl-Philippe Emmanuel, qui vit donc à la cour de Prusse, il ne l'a pas vu depuis plusieurs années. Or, un premier petit-fils lui est né, qui s'appelle Johann August. Il est né en 1745, sauf que en 1745, on était en pleine guerre de succession d'Autriche, et donc il n'a pas pu faire le voyage. Cette guerre, elle s'est achevée véritablement en 1748, avec le traité d'Aix-la-Chapelle, et le grand-père, dans la foulée, a décidé de faire le voyage. Il a même un peu devancé le traité puisqu'il décide de partir au printemps 1747. Ce sera le dernier voyage de sa vie dans une voiture cahotante par des routes mauvaises qu'il faut imaginer. Il est accompagné d'un autre de ses fils, Wilhelm Friedmann, et qui l'aide beaucoup parce qu'il voit bien que son père est fatigué. En même temps, Johann Sébastien se dit qu'il prendra du repos avec ses enfants quand il sera arrivé là-bas tranquillement en Prusse. Et de fait, il arrive un certain dimanche 7 mai 1747. À ce moment-là, au palais de Sanssouci, Frédéric II est en train de donner un concert de musique de chambre, comme il le fait quasiment chaque soir du reste, en tout cas quand il n'y a pas d'opéra de programmé. Je dis bien en train de donner un concert, c'est-à-dire qu'il n'est pas là assis dans son fauteuil à regarder les concertistes. Il fait lui-même partie de la formation, il tient la flûte. On lui apporte discrètement une liste des étrangers qui viennent d'arriver à Potsdam. Vous savez que la police prussienne est extrêmement bien faite. Et il découvre évidemment le nom qu'il cherchait dans la liste. Il pose sa flûte, se lève et s'exclame devant l'assemblée des musiciens. « Messieurs, le vieux Bach est arrivé ». Quand on dit le vieux Bach, c'est bien du grand musicien qu'on parle. Alors pourquoi cette expression? Pourquoi l'avoir appelé ainsi le vieux Bach? Bien, d'abord parce que on fait référence au fait qu'il est le père de la nouvelle génération des musiciens Bach dont nous allons parler dans un instant avec Thierry Geffrotin. Et puis, on ne peut pas exclure que dans l'esprit du roi Frédéric, il y ait aussi une allusion à l'écriture musicale de Bach, qui est un petit peu surannée pour l'époque. On est en 1747, maintenant on est passé à autre chose, une écriture plus légère, plus aérienne, plus galante aussi peut-être. À plusieurs reprises, le roi ne s'en est pas moins étonné de l'invraisemblable capacité de composition et d'improvisation de Bach. « Ah messieurs », a-t-il dit, « il n'y a qu'un Bach ». Frédéric II a donc à sa cour et dans son orchestre le fils de Bach, Carl-Philippe Emmanuel, qui est à son service depuis 1740, donc. Il est claveciniste, il lui a exprimé son désir de voir son père à Potsdam à plusieurs reprises. Carl-Philippe Emmanuel a de son côté demandé à son père de faire le déplacement, mais jusqu'ici ça n'avait pas eu lieu. Et bien voilà, ça y est, cette fois, le vieux Bach vient d'arriver à Potsdam.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Jean-Sébastien Bach.
Peut-être faut-il imaginer un peu ce que c'est que ce château de Sanssouci à Potsdam. Il est tout neuf, le château. On a commencé à le construire en 1744, là on est en 1747. Son architecte, Georg Wenceslas von Knobelsdorff, a terminé le château. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est que Potsdam. C'est un château hyper rococo. C'est le style baroque, le style rocaille, dans ce qu'il peut avoir de plus profus, de plus chantourné, tourmenté, de plus doré, c'est tout à fait invraisemblable, et il est flambant neuf à l'époque. Il faut imaginer tout cet or qui rutile, qui se reflète dans des miroirs à perte de vue, c'est complètement invraisemblable. On appelle ça le Versailles prussien. En vérité, c'est 50 fois plus doré, 50 fois plus riche que Versailles, c'est incomparable. Ce qui peut ressembler, vu de l'extérieur, c'est l'architecture qui fait vaguement penser au Grand Trianon. Alors, vous imaginez pour Bach le dépaysement que ça peut être d'arriver dans cette demeure. Lui qui, depuis 1723, réside à Leipzig. C'est autre chose, hein, Leipzig, c'est le moins qu'on puisse dire. Il possède là-bas le titre de cantor, hein, il est maître de chapelle, c'est-à-dire qu'il est responsable de l'organisation musicale de la cour, des deux églises, hein, Saint-Thomas et Saint-Nicolas. Il enseigne par ailleurs la musique aux élèves de Saint-Thomas. Enfin, c'est devenu une référence non seulement à Leipzig, mais dans toute l'Europe, disons-le. On dit de lui qu'il ne peut toucher une plume sans produire un chef-d'œuvre. C'est vrai qu'il a une invraisemblable prolixité, ce Bach. Il aura tellement composé, on va y venir tout à l'heure bien entendu. En 1736 donc, il a obtenu ce titre honorifique de compositeur de la chapelle royale de la cour de Saxe, et il va se cantonner néanmoins, en tout cas jusqu'en 1747, à des compositions, à des musiques instrumentales. En 1746, vous savez, il a fait faire son portrait par Elias Gottlob Hausmann, ce portrait très célèbre qui va faire, on va dire, la couverture de toutes les biographies par la suite, hein, et qui nous le montre sous un jour pas très aimable, il faut bien le dire. La vérité, c'est qu'il n'est pas au mieux de sa forme, le père, le vieux Bach, comme dirait le roi de Prusse. Depuis 2 ans, il commence de manière très inquiétante à perdre la vue. Il ne peut presque plus travailler. Il faut vous dire que pendant sa jeunesse, il a passé tant et tant de nuits à s'esquinter les yeux sur des partitions. Il a beaucoup, beaucoup composé. On peut dire que l'homme qui vient d'arriver à Potsdam commence à vieillir. Il a 62 ans à l'époque. Or, à peine arrive-t-il qu'il est immédiatement mandé au palais. Il ne s'accorde même pas le temps de changer ses habits de voyage. Le voilà encore tout poussiéreux, tout froissé de son voyage dans l'antichambre du roi de Prusse. La rencontre a lieu après la nuit tombée. Il faut imaginer tout ça illuminé par des candélabres, bien entendu. Et le roi Frédéric invite le vieux Bach à le suivre de salle en salle à travers ce palais rutilant et il lui fait essayer les différents pianos. Forte qu'il vient d'acheter. C'est Forkel, le premier grand biographe de Bach, qui assure que Frédéric II possède à l'époque une quinzaine de ces nouveaux instruments construits par Silbermann, une grande famille de facteurs de l'époque installée à Strasbourg. Et Bach va s'installer à chaque clavier et improviser. Je lis ce que nous écrit Forkel en 1802. Après qu'il eut joué et improvisé quelque temps, il demanda au roi un thème de fugue qu'il développa aussitôt sans la moindre préparation. Le roi, impressionné par la manière savante avec laquelle son thème avait ainsi été exploité au pied levé, exprima le désir, vraisemblablement pour voir jusqu'à quel point un tel art pouvait être poussé, d'entendre encore une fugue à 6 voix obligée. Mais comme tous les thèmes ne sauraient convenir à une polyphonie aussi complexe, Bach dut en choisir un lui-même et le développa aussitôt à la plus grande admiration de toutes les personnes présentes, d'une manière aussi somptueuse et savante qu'il avait traité le thème du roi. Ce thème du roi, le Thema Regium, évidemment, Frédéric II va le reprendre lui-même à la flûte, consécration extraordinaire pour le compositeur. Les musicologues ne se privent pas de constater à quel point ce thème est très bachien d'une certaine manière et ils doutent de la capacité du souverain à l'avoir improvisé comme ça au pied levé. Frédéric II, en tout cas, se souvient parfaitement de l'air 27 ans plus tard. C'est vous dire s'il a été marqué par cet épisode. Et alors qu'il reconnaît lui-même ne pas se rappeler précisément la soirée qu'il a passée ce jour-là avec Bach, il n'a oublié aucune des notes de ce qui va devenir une des plus célèbres improvisations bachienne, ce qui va devenir la célèbre offrande musicale. Cette rencontre de Potsdam, il faut le dire, est très importante. Elle est rapportée par la presse. Le Berlinische Nachrichten, les nouvelles de Berlin, le 11 mai 1747, écrivent « On apprend de Potsdam que M. Bach, le célèbre maître de chapelle de Leipzig, est arrivé à Potsdam même dimanche dernier pour avoir le plaisir d'y entendre l'excellente musique royale. Le soir, à peu près au moment où la musique ordinaire de la chambre entre habituellement dans les appartements royaux, on annonça à Sa Majesté que le maître de chapelle Bach était arrivé à Potsdam et qu'il se trouvait alors dans son antichambre où il attendait la très gracieuse autorisation d'entendre la musique. » Vous voyez que là, c'est assez différent de la version que je vous ai raconté, là on nous dit que c'est Bach lui-même qui, sans même attendre l'invitation du roi, s'est directement précipité à Potsdam et s'est quasiment invité chez le roi de Prusse. Je lis l'article, cet article de l'époque. « Sa Majesté donna immédiatement l'ordre de le faire entrer, se mit aussitôt à l'instrument nommé forte piano et eut la bonté de jouer en propre personne, sans aucune préparation, un thème sur lequel le maître de chapelle Bach dut improviser une fugue. Le dit maître de chapelle y parvint de manière si heureuse que non seulement Sa Majesté eut la bonté d'exprimer sa satisfaction, mais encore toutes les personnes présentes furent plongées dans l'étonnement. Monsieur Bach trouva si dense et si beau le thème qui lui avait été donné, qu'il veut le coucher sur papier en une véritable fugue et le faire ensuite graver sur cuivre. » Et le journaliste conclut, le gazetier devrais-je dire, « Le lundi, cet homme célèbre se fit entendre à l'orgue en l'église du Saint-Esprit de Potsdam et recueillit l'approbation générale de tous les auditeurs qui se pouvaient trouver dans la foule. Le soir, Sa Majesté lui proposa encore l'exécution d'une fugue à 6 voix, ce qu'il fit avec autant d'habileté que la première fois, pour le grand contentement de Sa Majesté et l'admiration de tous. » Amen. Alors vous vous rappelez la formule mi-figue mi-raisin employée par le roi Frédéric pour désigner ce compositeur qui venait lui rendre visite, le vieux Bach avait-il dit. La vérité c'est que Frédéric n'a pas une admiration définitive pour Jean-Sébastien Bach. Il le reconnaît certes comme le musicien extrêmement doué qu'il peut être, mais il considère qu'il représente un genre musical déjà dépassé. Pour autant, il raconte la visite de Bach à l'un de ses amis, Gottfried van Swieten, et ce dernier l'écrit au prince Konitz à Vienne, ce qui fait qu'on a un peu, de façon indirecte, le point de vue de Frédéric II. Voilà ce qu'écrit van Swieten. Frédéric II me parla de musique et d'un grand organiste nommé Wilhelm Friedemann Bach, donc ça c'est le fils de Jean-Sébastien Bach, qui vient de faire quelques séjours à Berlin. Cet artiste est doué d'un talent supérieur à tout ce que j'ai pu imaginer en profondeur de connaissances harmoniques et en force d'exécution. Cependant, et ça c'est très intéressant, cependant, ceux qui ont connu son père ne trouvent pas encore qu'il l'égale. Le roi est de cette opinion, et pour me le prouver, il chanta à haute voix un sujet de fugue chromatique qu'il a donné à ce vieux Bach qui, sur le champ, en fit une fugue à 4, puis à 5, puis enfin à 8 voix obligées. Voyez quand même que l'admiration est réelle chez Frédéric II. Il faut dire que Frédéric II ne se contente pas de jouer de la flûte, ou d'ailleurs en fonction des jours du clavecin et du violon dans les formations qui l'accompagnent. Il est un véritable connaisseur amateur de musique. Il compose d'ailleurs à l'occasion, de façon pas définitive, mais enfin tout de même, c'est un bon instrumentiste et c'est un compositeur honorable. Voilà un talent qu'il a développé en cachette de son père, le fameux roi Frédéric Guillaume Ier, qui, comme je vous l'avais dit, n'avait pas beaucoup d'admiration pour les musiciens. Ils ont été depuis rétablis, bien entendu, sous le règne de Frédéric II. En 1732, le roi d'ailleurs écrivait à sa sœur Wilhelmine, à ce moment-là il n'est encore que prince héritier, « Je fais de la musique tous les jours de 4 à 7 heures, je suis devenu compositeur ». Vous voyez, quand même un bain artistique incontestable autour de ce jeune militaire. Il ne faut pas oublier qu'avant tout, évidemment, Frédéric II de Prusse aura été l'un des grands stratèges de l'Europe moderne, peut-être le plus grand avec Napoléon, tout simplement. Rien à voir donc avec l'immersion native d'un Bach dans un véritable bain musical. Lors de son enfance à Eisenach, le père de Bach lui a donné, il s'appelait Johann Ambrosius Bach, il lui a donné toutes les bases, bien entendu, c'était lui-même un violoniste de talent, la musique religieuse, l'orgue lui ont été inculqués par son cousin Johann Christoph Bach, qui est l'organiste de l'église Saint-Georges. Il est vraiment très doué, le petit Jean-Sébastien Bach, évidemment. Il a une véritable, on pourrait presque dire que chez lui c'est un sixième sens. Il a de plus une capacité de travail invraisemblable et la passion d'apprendre qui va l'amener à recopier, à étudier les œuvres des compositeurs. Et après la mort de ses parents, parce qu'il se trouve que le pauvre va être orphelin à 10 ans, hein, sa mère meurt en 1694, il a 9 ans et son père décède moins d'un an plus tard, alors qu'il s'était remarié, c'est son frère aîné, Johann Christoph, qui est âgé de 24 ans et qui est organiste lui-même à Ohrdruf, qui va le recueillir, qui va achever son éducation, qui va faire de lui un choriste d'abord. À 15 ans, le petit Jean-Sébastien joue de l'orgue, du clavecin, du violon. Il s'inspire donc des grands musiciens de l'époque en étudiant leurs partitions à la bibliothèque municipale de Lunebourg, vous voyez qu'il ne perd jamais de temps. Et évidemment, lui a été complètement immergé. Il est né avec la musique, si je puis dire. Alors revenons au roi Frédéric II. Une fois rentré de Leipzig, après cette fameuse rencontre avec le roi de Prusse, Bach va se mettre comme promis au travail. Il écrit cette composition dédiée au roi et il lui fait parvenir la composition en question le 7 juillet, gravée sur cuivre comme il l'avait proposé. C'est cette offrande musicale que nous venons d'entendre. Le titre en latin, Regis Iussu Cantio et Reliqua Canonica Arte Resoluta, elle est surnommée Fugue du roi de Prusse, ou tout simplement la Fugue prussienne. Elle a été d'ailleurs gravée au fur et à mesure, et on peut dire à la hâte, en 5 fascicules, par l'élève de Bach, Schubler, avant qu'on puisse les adresser au plus vite possible, bien sûr, qu'on puisse les adresser au roi, accompagné d'une belle dédicace, tout ça achevé à l'automne, bien entendu. entendu. L'offrande musicale reste, mais je vais en parler dans un instant, avec notre invité, avec Thierry Geffrotin. Elle reste évidemment un des grands moments de la musique de Bach. Pourquoi est-ce que Bach a écrit cette offrande? Après tout, il n'a plus rien à prouver, il n'a plus à attendre les faveurs du roi prussien. Ben, peut-être aussi avait-il quand même envie que ses enfants bénéficie des faveurs du roi. Peut-être s'est-il dévoué pour ses fils d'une certaine manière. En tout cas, ce sera sa dernière grande œuvre, car malheureusement, ses yeux vont de plus en plus se mettre à lui jouer des tours. Alors pour remédier à cette baisse de l'acuité visuelle, Bach va finir par se faire opérer, sauf qu'il perd la vue, définitivement. Alors là, il se trouve vraiment très mal, et d'autant plus mal qu'il ingère une quantité invraisemblable de médicaments qui vont le conduire littéralement à la tombe. On le voit décliner, s'éteindre un peu comme une bougie jusqu'en juillet 1750, et 10 jours avant sa mort, l'état de ses yeux d'un seul coup s'améliore. Sauf que dans la foulée, il succombe à une attaque au cerveau suivie d'une forte fièvre et il va mourir malgré tous les soins qui lui ont été prodigués par 2 médecins. Il meurt le 28 juillet 1750 à 9h15 du soir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Bach ne laisse pas derrière lui une place vide. Il y a évidemment la quantité vraisemblable de toutes ses œuvres qu'il a pu composer pendant le cours de sa vie. Et puis surtout, il y a tous ses fils, dont 4 sont compositeurs, Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich, Johann Christian. Tous sont bien entendu les dignes émules de leur père génial. Et ce sont eux surtout qui vont constituer le sujet de la suite de cette émission. Bonjour Thierry Geffrotin.
Bonjour Franck Ferrand.
Merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons parler donc de Bach et de ses fils.
Nous.fr.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de Bach, de ses enfants et de ses élèves. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Thierry Geffrotin, journaliste sur Europe 1 et musicien.
Tout à l'heure, quand on a entendu cette offrande musicale, en tout cas quelques mesures, je me suis demandé si j'allais interrompre l'émission et vous demander de nous en dire un mot, Thierry, mais je me suis dit que vous le feriez aussi bien maintenant.
C'est difficile de parler sur la musique, surtout la musique de Bach. Et une chose amusante, parce que la musique de Bach peut être amusante. Il y a des petits clins d'œil. Quand on entre dans la musique, on peut s'amuser. Mais là, sur l'offrande musicale, il y a une chose très amusante. C'est le titre que vous avez cité en latin. En fait, c'est un acrostiche, puisque on obtient, en faisant Regis, Iuso, Cantio, etc., on obtient Richard Carr, qui est la forme latine. Richard Carr, c'est la fugue. Donc Bach, là, s'est amusé à faire un clin d'œil dans le titre.
Il y a un cryptogramme, en fait.
Oui, hein. C'est ça. C'est tout l'humour caché de Bach. Je ne dis pas que c'est un grand humoriste, mais il y avait un clin d'œil au roi. L'offrande musicale, ça fait partie des dernières œuvres, des œuvres de la fin de sa vie, là où il se resserre. C'est-à-dire que il va chercher dans le canon, qui est une forme assez simple. Tout le monde a chanté Frère
oui,
Jacques,
sûr,
voilà.
Plusieurs fois.
Il va chercher dans le canon une forme simple, des œuvres extrêmement complexes. Il y a l'offrande musicale, il y a des variations sur un choral de Noël pour orgue, il y a l'art de la fugue, bien sûr. Ce sont donc des œuvres majeures, en même temps d'une grande complexité, et d'une apparente simplicité.
Ce qui est fascinant, et vous allez pouvoir en témoigner, Thierry Geffrotin, puisque vous êtes le monsieur musique d'Europe 1, évidemment, quand on commence à découvrir, puis qu'on approfondit sa connaissance, puis qu'on devient un spécialiste de la musique classique, petit à petit, on a envie de dire, on arrive à Bach. C'est assez extraordinaire, ça. C'est comme si, finalement, tout ce chemin nous menait au plus génial des compositeurs. Et on a l'impression que l'alpha et l'oméga, que toute la musique et dans Bach. Vous avez ce sentiment?
Oui, et les plus grands ont rendu hommage, alors soit par des écrits, soit dans leurs œuvres, à Bach. Chopin, évidemment, Chopin qui avait des élèves. Un jour, une élève jouait un prélude des fugues du clavier bien tempéré. Sans doute, elle n'y arrivait pas très bien. Il se met au clavier, elle était en admiration. Il avait dit, ça ne s'oublie jamais. Brahms était tourné vers Bach. Mozart.
Et ben Mozart.
Mozart.
Non, mais alors, chez Mozart, il se trouve que j'ai un ami compositeur qui m'a fait une démonstration l'autre jour assez sidérante. Toutes les grandes mélodies de Mozart, tous les grands accords que l'on connaît évidemment par cœur, se retrouvent dans des œuvres de Bach. C'est incroyable. Mozart a passé sa vie à piocher dans Bach.
En tout cas, à le traquer peut-être sans le savoir, puisque c'est à la toute fin de sa vie que Mozart va... Enfin, toute fin de sa vie, en 80,
oui,
1782
vers la fin,
déjà.
Vers la fin, oui.
Mais à la fin, 2 ans avant sa mort, qui vraiment, il a la révélation en allant à Leipzig, justement. En fait, la musique de Bach, je pense qu'elle est un peu desservie par une espèce de réputation qui...
La divine machine à écrire,
voilà,
disait... Machine à coudre,
voilà. Ça, c'est horrible. Je ne sais pas pourquoi on a affublé Bach de cette espèce de rigueur, peut-être luthérienne,
mécanique,
il y a quelque chose. Alors que sa musique est vraiment une musique de chair et de sang, une musique de joie et de grande souffrance.
Il suffit d'écouter les passions, tout simplement, pour voir à quel point cette saison, à quel point elles sont particulièrement incarnées, humaines. Elles sont, on pourrait presque dire, sur un fil d'émotions constants.
D'autant que parallèlement à sa lecture de Luther et à sa grande connaissance vraiment des textes, il y a la vie à la maison et il y a des naissances, de nombreuses naissances, puisque Bach a épousé deux femmes, la première Maria Barbara, qui meurt d'ailleurs
voilà,
en son absence,
voilà,
et la deuxième Anna Magdalena, avec ses deux épouses successivement.
La première meurt en 1720, lui était né en 85, c'est-à-dire qu'à l'époque il a 35 ans quand elle meurt.
C'est une violence pour lui, parce qu'il est absent du foyer, et c'est à son retour qu'il apprend que son épouse est décédée,
terrible,
vous imaginez.
Terrible.
Et la deuxième épouse, alors avec la première, il a sept enfants.
Voilà.
Oui. Et avec la deuxième, avec Anna Magdalena, il en a 13, 20
Anna
enfants.
Anna Magdalena Wickle.
Voilà. Vous imaginez, dans ce foyer, alors, il faut tordre le cou à quelques légendes, il n'y a jamais eu 20 enfants à la maison, bien sûr. Il y en a, on pense, autour de 6, 7.
Quand même.
Avec des grands qui s'occupaient des petits. Enfin, il y a quelque chose de, sans doute, de joyeusement turbulent à la maison, chez les Bach.
Alors, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début, c'est Thuringen. C'est la Thuringe.
Ah,
c'est important. C'est de là que tout
vient. Très important. Parce que, en Thuringe, au XVIIe et au XVIIIe siècle, quand vous prononcez le mot de bar ou de par, parce que, suivant l'accent, on peut l'écrire avec un B
oui,
ou avec
oui,
un
oui,
P,
oui.
On sait qu'on a affaire à un musicien. La Thuringe, vraiment,
Le bar, en allemand, c'est le ruisseau.
C'est le ruisseau.
Hein.
C'est le ruisseau.
Et donc, le musicien, c'est celui qui produit de la musique comme l'eau d'un ruisseau.
Exactement. Il y a de ça, en effet. Et en Thuringe, le nom de Bach est synonyme de musicien. On en trouve partout, des Bach, absolument partout. Alors d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, il est de bon ton de dire aux étudiants des écoles de commerce, vous savez, le réseau, c'est très important. Mais les Bach, ils avaient déjà compris ça. Hein. Je peux vous dire que quand ils se libèrent une place d'organiste dans telle ville de Thuringe, aussitôt, on écrit à un cousin qui cherche une place en disant, je te signale que et je peux intercéder en ta faveur.
Mais parce que tous ces gens, et ça c'est terrible, c'était vrai du père, même du grand-père, mais ce sera vrai des enfants dont nous allons parler dans un instant, ils sont constamment à la recherche de postes, de titres et surtout donc de pensions, bien entendu. Il ne faut pas oublier que tous ces musiciens de l'époque sont plus ou moins considérés comme des fournisseurs, même plutôt comme des domestiques en vérité.
Oui, oui,
ils portent la livrée. Hein.
Et d'ailleurs, quand Jean-Sébastien Bach en 1747 arrive, il est dans l'antichambre, on le fait attendre. Je pense qu'on peut l'évoquer de bien des manières, la rencontre avec le roi de Prusse. Mais à un moment, il est comme Haydn qui attendait dans l'antichambre du prince Esterhazy. Bach, il attend dans l'antichambre. C'est un domestique sans doute un peu mieux reconnu qu'un cuisinier.
Parce que je crois qu'on avait beaucoup de respect pour les cuisiniers, on en avait aussi beaucoup pour les grands veneurs, pour tout. Il y avait comme ça un grand nombre de domestiques qui étaient très bien vus, très respectés par les maîtres, mais qui n'en restaient pas moins des domestiques.
On n'est pas dans le même univers.
C'est ça, voilà.
Et vraiment, la visite, c'est le dernier grand voyage. Bach a assez peu voyagé. Il y a un parallélisme à faire entre Handel et Bach. Ils sont nés tous les deux en 1685, tous les deux en Thuringe, puisque Bach est né à Eisenach et Handel est né à Halle. Et bien, tous les deux ont des vies totalement différentes. Il y en a un qui va passer par l'Italie et finir en Angleterre. C'est Handel qui va beaucoup voyager, donc. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle Jean-Sébastien Bach. Ses voyages, grosso modo, c'est il part à Lunebourg pour étudier, donc dans le nord de l'Allemagne. Il va à Hambourg, il ira à Lübeck écouter Dietrich Buxtehude.
Extrême nord de l'Allemagne.
Voilà, donc on est dans le nord de l'Allemagne. Et après, ça sera Dresde et Berlin. Voilà les voyages de Bach. Puis, bien sûr, il tournera un peu en Thuringe puisque il restera quand même dans sa région.
Oui, la cour de Saxe joue un rôle important. Et évidemment, Leipzig au premier plan.
Hein. 27 années sur place, 27 années difficiles, parce que vous savez, parfois, je me dis, alors la vie n'est pas difficile pour moi, hein, mais quand la vie, de temps en temps, ne vous sourit pas trop, vous dites, oh mon Dieu, moi je pense toujours à Bach. Bach, il a été, excusez-moi le mot, mais il faut le dire, emmerdé, ferme les guillemets, par ses employeurs. C'était incroyable. Bach, à Leipzig,
il n'était jamais
27
satisfait.
Ans, il a essayé de partir, il a essayé de s'en aller. Pourquoi il était venu à Leipzig? Il savait qu'il gagnerait moins d'argent, il savait sans doute que la vie serait plus difficile qu'à Köthen, qu'il avait fini par quitter, mais il voulait aller dans cette ville parce que c'est une ville universitaire, et on en vient aux enfants, il voulait que ses enfants aient une éducation que lui-même n'avait pas reçue. Et évidemment, Leipzig est une ville très importante, où Carl Philipp Emanuel ou Wilhelm Friedemann feront des études de droit, puisque le droit c'est la culture générale à l'époque. Et voilà pourquoi à un moment, Jean-Sébastien Bach postule pour Leipzig en 1723.
Alors, Wilhelm Friedemann et Carl Philipp Emanuel sont du premier Amélie, donc, hein, du premier mariage, et Johann Christoph et Johann Christian du deuxième.
C'est assez simple. Alors, j'ajoute un cinquième Bach. Mm-hmm. Alors, il y a beaucoup de Bach musiciens. Mais vous savez que l'histoire de la musique, c'est une espèce de grand arbre. Et puis, les historiens, ils élaguent, ils coupent les branches parce que ça permet de voir un peu plus clair. Mais s'il fallait qu'on s'intéresse à tous les Bach musiciens, pas seulement les enfants Bach, mais tous les Bach musiciens, on n'en finirait pas. Alors, pour s'intéresser aux enfants Bach, voilà, vous avez cité les quatre principaux. Moi, j'en cite un cinquième pour l'anecdote un peu et aussi pour lui rendre hommage parce que toute la famille l'aimait beaucoup. Il s'appelait Gottfried Heinrich. C'est aussi un enfant du deuxième lit avec Anna Magdalena. Mais lui, c'est Carl Philipp, son frère, un de ses frères qui le dit, un vrai génie qui ne se développa pas. On dit en fait qu'il était un peu demeuré, mais c'était un très bon musicien. Voilà un cinquième Bach musicien, mais qui n'a pas fait carrière, celui-là.
Il n'était pas tendre avec ses enfants, quand même, Bach. De Carl Philipp Emanuel, il dit « c'est du bleu de Prusse, ça se décolore ». Je trouve que c'est extrêmement méchant, ça. Et puis alors de Johann Christian, il dit « mon Christian est un gamin fort sot, et c'est pour cette raison qu'il aura du succès dans le monde ».
Oui, mais c'est un très...
C'est peut-être avec humour, hein, toujours. Il faut peut-être le prendre au second degré.
Mais... Ce que je pense, c'est que alors, il a 50 ans, hein, j'en sais Sébastien Bach, lorsque naît Johann Christian, qui deviendra le Bach de Milan, puis le Bach de Londres, c'est lui qui rencontrera Mozart, et ce Bach va se convertir au catholicisme. Je pense que ça lui fait peut-être hérisser les cheveux sur la tête à Bach, un luthérien, de voir un de ses fils devenir catholique.
Alors ce Johann Christian Bach, il est l'auteur d'une grande ouverture en mi bémol majeur que nous écoutons maintenant.
Thank you.
de l'histoire jusqu'à 15h. Vous nous parlez, Franck Ferrand, cet après-midi de Jean-Sébastien Bach, de ses enfants, de ses élèves. Et nous vous retrouvons dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire de Jean-Sébastien Bach, de ses enfants, de ses élèves, avec vous Franck Ferrand cet après-midi et votre invité Thierry Geffrotin, journaliste sur Europe 1 et musicien.
Je ne sais pas si vous êtes de mon avis Thierry Geffrotin, mais je trouvais dans les accents que nous venons d'entendre de Johann Christian Bach quelque chose d'assez mozartien ou un peu de Haydn plus que de Bach.
De toute façon, quand on écoute les compositeurs, les fils Bach, il faut oublier quasiment le nom. On n'est plus du tout dans la même époque. Et d'ailleurs, les fils se sont construits seuls. Enfin, ils ont évidemment bénéficié de l'enseignement, de la rigueur du père, à la fois de l'enseignement des instruments et de la composition, mais leur caractère, ils sont de leur temps. Ils n'ont pas essayé, d'ailleurs ils ont eu raison, ils n'ont pas essayé d'imiter leur père. Mon Dieu, imiter le père, c'était impossible, vous l'avez fort bien dit. C'est quand même le vieux Bach, la musique qu'il écrit, c'est une musique démodée. En 1747, c'est un vieux Bach. Donc ce qu'on écoute, c'est la musique du temps.
Voilà, et celui qu'on vient d'entendre, c'est le dernier en plus, hein, de la petite fratrie là. Enfin, ou de la grande plus exactement. Au moment où il naît, son père a déjà 50 ans en fait.
Oui, hein, c'est l'année où il naît, où Jean-Sébastien Bach réalise un document exceptionnel qui est la généalogie de toute la famille Bach. C'est très intéressant parce que il avait peut-être un besoin aussi de voir jusqu'où il pouvait remonter. Et on voit qu'il est remonté assez loin d'ailleurs. Hein. Et on voit qu'en effet, la famille Bach n'est constituée quasiment que de musiciens. Je parle de musiciens, pas de musiciennes, parce qu'à l'époque, les demoiselles aussi, les filles font de la musique, mais elles n'en font pas professionnellement. Ça, on n'en parle même pas.
Bien sûr,
on n'en parle pas.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un point commun entre ces quatre compositeurs, ces quatre fils Bach, ou est-ce qu'ils ont chacun son univers à part entière, en fait ?
Oui, chacun a son univers. Chacun épouse d'ailleurs les formes du temps. Moi, j'aime beaucoup Carl-Philippe Emmanuel. Il y a une espèce de grande fantaisie et de rigueur en même temps dans l'écriture. Il y a des ruptures. Enfin, c'est visuellement, je parle comme ça, mais visuellement, c'est une musique assez incroyable, avec des contrastes phénoménaux. Jean Chrétien me semble aujourd'hui, sinon passé de mode, en tout cas, Mozart est passé par là.
Donc,
Wilhelm Friedemann était considéré par Bach lui-même, par le père Bach, le vieux Bach, comme sans doute le compositeur le plus génial. Oui, Wilhelm Friedemann, son aîné.
C'est celui qu'il considérait en quelque sorte un peu comme son successeur, d'une certaine manière.
On a beaucoup dit de mal, on a raconté, je crois, tout et n'importe quoi, en disant qu'il avait dilapidé notamment l'héritage, le patrimoine, parce qu'à la mort de Bach, les deux fils, Carl-Philippe Emmanuel d'une part et Wilhelm Friedemann d'autre part, vont récupérer beaucoup de musique. On a dit que
tous les manuscrits, quoi.
On a dit que Wilhelm Friedemann était un alcoolique, que pour payer sa bouteille, il vendait ou il donnait
les œuvres de son père.
Ce qui
en fait.
Est absolument faux. Ce qui est vrai, c'est qu'il a dû donner des documents, des manuscrits à des personnes qu'il tenait en haute estime, peut-être des amis, et que de ce point de vue, Carl Philippe a été beaucoup plus rigoureux, ça assurément. Pour revenir à votre question sur, moi j'aime beaucoup chacun à sa manière, parce que de toute façon, à un moment, le grand Bach, l'ombre n'est pas loin. La formation est derrière. Il y a quand même, c'est pas de la petite musique, hein, c'est sérieux. C'est de la musique du temps à chaque fois, mais on sent bien qu'il y a une éducation
très rigoureuse, très essentielle.
Grande base de rigueur, du contrepoint, tout est là. Hein.
Vous allez peut-être sursauter, Thierry, mais j'ai envie de dire, ce ne sont peut-être pas d'immenses compositeurs, mais ce sont d'immenses musiciens.
Carl Philippe, je crois, est un très grand compositeur. Le problème de Carl Philippe, c'est qu'il a été en poste très longtemps, trop longtemps, auprès de Frédéric II. Il a essayé de s'en aller de nombreuses fois, et à chaque fois qu'un poste se trouvait libre, le roi, pour le retenir, augmentait son salaire. Et il a fini par partir, après 28 années passées auprès du roi de Prusse, il est parti à Hambourg, où son parrain, qui n'était ni plus ni moins que Telemann, voilà, il a pris la place de Telemann. Peut-être que si Carl Philippe avait plus bougé, professionnellement, s'entend, on aurait peut-être davantage pris en considération ses compositions. Il est vrai que, de toute façon, je reviens à l'ombre de Bach. Bach,
oui, c'est écrasant, le père est là. Évidemment, oui. Je vous propose de Carl-Philippe Emmanuel Bach d'entendre justement quelques mesures du Magnificat. Il faudrait évidemment que les auditeurs vous voient en ce moment, Thierry, parce que vous avez commencé par chanter, maintenant vous sifflez. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même un certain entrain dans ce Magnificat.
Je siffle, non pas l'œuvre, j'accompagne l'œuvre en sifflant.
Oui, en sifflant, pardon, je m'exprime mal, oui, tout à fait. Vous disiez qu'il y a un certain décalque là entre le
Ah oui, il y a
le
un air de... pour ténor, ouais. Où on voit, enfin on voit bien, oui, on le voit, on l'entend, que Carl Philipp Emmanuel a eu la partition de papa du même Magnificat, des mêmes paroles, sous les yeux. Il y a une espèce d'hommage, parce qu'on ne veut pas penser qu'il y a copié une citation. Oui. Il y a quelque chose de... Voilà, le fils qui rend hommage au père.
Alors ça, ce sont tous les fils. Bon, on va peut-être pas finir l'après-midi avec toute la famille Bach. On a vu hein, ces quatre enfants. Il y a aussi tous les élèves de Bach. Élèves directs, ceux qui ont vraiment travaillé avec lui. Et puis les élèves indirects et tous les épigones.
Alors sur le nombre d'élèves, et c'est colossal, hein, j'ai trouvé la liste, je vous l'épargne. Hein, j'en ai trouvé près de 100 élèves. Oh là là, il y en a peut-être davantage. Il y en a un qu'il faut absolument citer pour deux raisons. La première, parce que Bach l'aimait beaucoup. Il s'appelle Krebs, c'est l'écrevisse, et il disait, il n'y a qu'un écrevisse dans mon ruisseau, ein Krebs in meinen Bar, c'est un jeu de mots. Vous voyez que Bach avait de l'humour. Et il faut le citer parce que Bach avait beaucoup d'admiration, et c'est devenu un compositeur qui était reconnu de son temps, un peu oublié aujourd'hui, mais les organistes le connaissent bien. Et surtout, Johann Ludwig Krebs, il a été élève de Bach, écoutez bien, pendant 11 ans. Il a été l'élève pendant 11 ans, de 1726 à 1737, c'est-à-dire de l'âge de 13 ans à 24 ans.
Formation
vous vous rendez compte
complète.
Ça paraît presque incroyable.
Et qu'est-ce qu'il en a fait?
Ben, il l'a lâché dans la nature, il a fait une lettre de recommandation et après il a volé de ses propres
ailes.
Non,
mais alors, pardon, je m'exprime mal, mais que Krebs a-t-il fait de cet extraordinaire enseignement?
Ah ben, il a écrit une œuvre qui est une très belle œuvre. Alors, c'est pas du génie de Bach, hein, mais il y a une œuvre d'orgue redoutable pour les organistes. Ça se travaille, hein, ça ne joue pas à vue. Et puis surtout, alors là, on sent la marque du maître. Alors, il y a d'autres élèves qui sont restés assez peu de temps. Par exemple, le maître de chapelle, le cantor que Mozart va rencontrer quand il vient en 1789, est lui-même un élève de Jean-Sébastien Bach. Il s'appelle Johann Friedrich Dolz, et il a été élève pendant 3 ans, de 1739 à 1742. Donc, quand Mozart parle à Dolz, il a vraiment face à lui, quasiment, il peut se dire, cet homme-là, il connaît Bach comme sa poche. Hein. Il a été 3 ans avec Dolz. Hein.
Ce qu'il faut peut-être qu'on explique, Thierry, c'est que, au-delà des élèves, l'empreinte de Bach a été considérable sur toute la musique, et qu'il n'y a pas d'éclipse. C'est-à-dire qu'on a toujours joué Bach, contrairement à bien d'autres compositeurs qui ont des périodes plus ou moins fastes. Là, lui, il n'a jamais disparu, si je puis dire, depuis sa mort.
Oui, parce que ce compositeur est doublement génial. C'est-à-dire que sa musique, ce sont des chefs-d'œuvre. Hein. Quand on écoute une passion, Saint-Matthieu ou Saint-Jean, sont des chefs-d'œuvre. Et c'est en même temps un grand pédagogue. C'est-à-dire que quand il écrit le clavier bien tempéré, quand il écrit l'organbüchlein pour les organistes, le clavier bien tempéré pour les pianistes ou les clavecinistes, c'est aussi une manière de les mettre sur les chemins de la difficulté. Et d'ailleurs, souvent, quand il fait la dédicace, il dit pour les amateurs, alors vous imaginez, les amateurs, aujourd'hui, on dirait les professionnels. Hein. Donc, c'est ça son génie. C'est que, et voilà pourquoi, notamment, il y a deux bonnes raison. C'est d'abord, son œuvre est immense et géniale, mais c'est que derrière ce compositeur se cache aussi un pédagogue, un formateur hors pair.
Mais il a composé des espèces de gammes, si l'on peut dire. Hein,
ah bah oui, mais c'est mieux que des gammes.
Ouais,
alors,
ça.
On a longtemps dit, par exemple, que les sonates en trio, alors c'est quoi une sonate en trio? Vous avez la main droite, la main gauche et le pédalier, et tout ça, c'est indépendant. Vous imaginez déjà physiquement et intellectuellement ce que ça représente, parce qu'il y a des notes, je peux vous dire que ça tricote, comme l'on dit. Eh bien, on a longtemps pensé que ça avait été écrit pour un des fils. Sans doute pas, mais en attendant, c'est une fois que vous jouez toutes les sonates en trio de Bach, vous êtes armé pour jouer absolument toute la musique d'orgue. Hein.
Depuis une trentaine d'années, il y a une sorte de redécouverte de Bach grâce à la vogue de la musique dite baroque ou musique ancienne. Je pense à Gustave Leonhardt, évidemment.
Et Nicolaus Harnoncourt.
Et Nicolaus Harnoncourt qui ont redonné à Bach une espèce d'actualité. Ils ont refait de Bach un compositeur à la mode, d'une certaine manière. Je ne parle pas des interprétations limites et passionnantes d'un Glenn Gould sur les variations Goldberg, par exemple, où là, on est dans la recréation quasiment.
Oui, alors ce qui est amusant, parce que c'est vraiment amusant, c'est de se dire Bach, qu'on le joue au synthétiseur avec des instruments très contemporains, avec un piano, avec un clavecin, ça sonne toujours. Alors, certains vont vous dire, oh là là, mon Dieu, quelle horreur si vous jouez sur un synthé. Ben oui, mais que voulez-vous? Cette musique, elle transcende l'instrument. Alors ça vous réjouit peut-être plus ou moins, mais il n'en demeure pas moins. Alors là où on est plutôt heureux quand on est un mélomane avec un goût que l'on pense sûr, c'est lorsque l'instrument est bien servi et que Jean-Sébastien Bach lui aussi est bien servi. Mais de toute façon, vous pouvez jouer du Bach à la guitare, ça sonne très bien même si c'est pas écrit pour, même s'il a écrit des œuvres pour luth. Les Swingle Singers se sont amusés à mettre de manière vocale des œuvres qui étaient à l'origine écrites pour des claviers et ça fonctionne toujours. Et c'est ça, je pense, le génie. C'est quand on va au-delà de l'œuvre elle-même.
C'était Jean-Sébastien Bach par Thierry Geffrotin, notre Thierry Geffrotin, auteur notamment de Mozart pour les nuls aux éditions First. Merci beaucoup Thierry.
Merci Franck.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondez Franck Ferrand à la question d'Élodie sur l'hymne des Habsbourg, devenu l'hymne de l'Allemagne.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Élodie. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Élodie aimerait savoir comment l'hymne des Habsbourg est devenu l'hymne actuel de l'Allemagne.
Eh bien, voilà une question. Il faut dire que cet hymne allemand a tellement fait couler d'encre. Il nous rappelle pas que de bons souvenirs en France. C'est forcé. La mélodie, ne l'oublions pas, a été composée par le célèbre Haydn en 1797. C'était pour l'anniversaire de François II d'Autriche, d'ailleurs. Et d'ailleurs, les premières paroles disaient « Dieu sauve l'empereur François ». C'est un chant qui est adopté comme hymne des Habsbourg, puis comme hymne de l'Empire d'Autriche. Au départ, c'est ça l'idée. Jusqu'à la fin de l'Autriche, ça va durer cet hymne jusqu'en 1918. Cette mélodie, elle a été très appréciée par toutes sortes de compositeurs du 19e siècle. En 1841, elle est reprise par l'écrivain allemand Hoffmann von Fallersleben, qui y ajoute les paroles de l'hymne allemand qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on appelle le Deutschlandlied, avec ce fameux Deutschland über alles, qui au départ veut dire l'Allemagne avant tout, sous-entendu dans nos préoccupations, et qui évidemment plus tard, au moment du Troisième Reich, dans la fin des années 30, va prendre une toute autre signification puisque les nazis utilisent ce premier couplet, j'ai envie de dire, au pied de la lettre. Ça devient Allemagne au-dessus de tous, dans le sens on va écraser tout le monde, bien entendu. Après la Seconde Guerre mondiale, et ça c'est un sujet d'étonnement et c'est pour ça qu'on en a tant parlé, bizarrement l'hymne va rester l'hymne de la République fédérale d'Allemagne. Mais alors attention, il est interdit en RDA par ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 1954, on ne chante plus que le troisième couplet qui parle d'unité, de justice et de liberté. Et d'ailleurs, carrément, depuis la réunification, depuis 1990, seul ce troisième couplet est considéré comme l'hymne officiel de l'Allemagne. Chanter le premier couplet maintenant, ce serait vraiment très mal perçu. C'est considéré quasiment comme un acte de propagande néo-nazie. La musique, elle, est restée. Et mieux que ça, cette musique, on la retrouve dans la célèbre valse de l'empereur des Strauss, vous savez. Et oui, puisqu'après tout, c'était la musique des Habsbourg.